Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le pouvoir de la croix. Nous arrivons à l'étude numéro 5 et nous aurons deux petites études. Premièrement, le renoncement. Et deuxièmement, la croix. Chers amis, une fois que le croyant commence à découvrir quelque chose de la terrible tyrannie de son moi, tyrannie contre laquelle il a lutté sans arrêt, le renoncement au moi, il devient une préoccupation à tel point qu'il sera mené à la liberté qui permettra le repos et la croissance en Jésus-Christ. L'homme propose plusieurs manières pour échapper à la servitude du moi. Dieu, lui, par contre, n'en propose qu'une seule. Alors essayons d'abord de cerner quelques-unes des méthodes centré sur l'homme uniquement. Premièrement, il y a la mortification. Se refuser certains agréments pendant quelque temps, ou même, pourquoi pas, en permanence, tout cela n'est pas une réponse au problème, car la vieille nature, elle sait s'adapter et continue à prospérer dans n'importe quelle condition, pourvu que le moi ne doive pas mourir. A. W. Tozer, un remarquable théologien du passé, il remarque justement ceci. De tout temps, il y a eu des hommes qui croyaient pouvoir se débarrasser de leur penchant charnel en se retirant de la société. Ils se sont privés de toute relation humaine naturelle en s'isolant au désert, à la montagne ou dans une cellule d'ermite afin de jeûner, de travailler dur, de lutter contre la chair pour la mortifier. Alors que la motivation qui les poussait était louable, malheureusement leur méthode ne peut être recommandée, car la Sainte Bible ne nous permet pas, elle ne nous permet pas de croire que notre vieille nature, cette nature charnelle, puisse être subjuguée de cette manière-là. Elle ne peut donc être vaincue que par la mort à la croix. Elle est bien trop tenace pour qu'on puisse la tuer en maltraitant le corps et en refusant les sentiments d'affection normaux. Deuxièmement, il y a la conquête. Probablement que l'effort le plus fatigant à la longue, c'est celui que fournit le croyant qui veut absolument conquérir et vaincre son moi rebelle. Alors il pense pouvoir arriver à force de réunions, à force d'études bibliques et de prières, pourquoi pas. Mais ce n'est pas non plus la méthode divine, bien que ses activités paraissent absolument recommandables, même par l'Écriture sainte. Troisièmement, il y a l'éducation. Voici donc une méthode qui a toujours joui de l'estime générale. Elle a été essayée toujours à nouveau, sans donner les résultats escomptés. Il y a des siècles qu'on mise sur une éducation et sur une culture chrétienne dans la famille, même à l'Église, ainsi qu'à l'école, pour essayer de subjuguer et de rendre docile la nature pécheresse. Quatrièmement, il y a le ou les réveils. Une autre pratique s'est avérée inopérante. Elle consiste à organiser des réunions et des rencontres spéciales une ou deux fois par année, et cela implique la venue d'un conférencier ou d'un leader qui ne connaît même pas les problèmes particuliers des membres de l'Église qui, pourtant, fait appel à lui. Et voyez-vous, cela risque de résulter en une routine de réveil désastreuse. Les gens étant poussés à confesser leur foi et, pourquoi pas, à renouveler leur engagement, et que sais-je encore, eh bien tout cela dans l'espoir que quelque chose va changer, ce qui est hélas rarement le cas, et quand cela arrive, c'est souvent de courte durée. Cinquièmement, il y a la croissance. Trop de chrétiens accomplissent péniblement la routine lassante de leur activité ou de leur devoir dans l'Église, tout en s'imaginant que leur moi va s'améliorer au fur et à mesure qu'ils avancent. Mais leur moi ne fait que s'affermir toujours davantage, car ce qui est né de la chair est et reste chair. Saint Jean chapitre 3 verset 6. Quelquefois le moi est tout à fait mauvais. Par exemple, quand il se fâche, quand il agit parfois par dépit, quand il se montre désagréable, injuste, violent, et témoigne ainsi d'un manque d'amour évident. Mais il lui arrive de présenter une belle façade derrière laquelle se cache un cœur dont les pensées sont souvent mauvaises. Par exemple, on est fier de son humilité. On se vante de son service chrétien ou de son orthodoxie. Plus d'une réunion de prière a souvent souffert. À cause de quoi? Mais à cause de la vanité de certains membres qui, eux, aiment surtout entendre leur propre voix et surtout pas les autres. Sixièmement, il y a la purification. Voyez-vous, confesser les péchés commis à ce jour pour être purifié, cela constitue une méthode populaire. Cependant, 1 Jean, 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9, vise les péchés déjà commis et non la source dont ils sont le résultat, c'est-à-dire le moi. Le fameux et réputé Watchman Nee, il dit « Le sang peut me purifier de mes péchés, mais il ne peut purifier mon vieil homme. Il faut donc la croix pour me crucifier, moi, le pécheur. Le sang de Christ ôte mon péché, mais la croix s'occupe de mon moi. Le sang procure le pardon. La croix, elle opère la délivrance de ce que nous sommes. Je répète parce que parfois c'est très important. Écoutez bien. » Vachmani nous dit que le sang peut me purifier de mes péchés, mais il ne peut purifier mon vieil homme. Il faut donc la croix pour me purifier, moi qui suis le pécheur. Le sang de Jésus-Christ ôte mes péchés, mais la croix s'occupe de mon moi. Le sang procure le pardon. Or la croix, elle opère la délivrance de ce que nous sommes. Septièmement, il y a les expériences. Une des méthodes à la mode pour atteindre un état spirituel plus satisfaisant, c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit et surtout le parler en langue, et ce qui s'ensuit, évidemment. Mais ça peut être un piège des plus dangereux et même les plus pathétiques, car il peut mener à de véritables névroses sous couvert de religiosité super spirituelle. Le calvaire précède donc la Pentecôte. La puissance, oui, les enfants de Dieu en ont besoin, d'accord. Mais Dieu n'investit de puissance ni le vieil homme, ni la personne qui n'est pas crucifiée avec Jésus-Christ. C'est Satan qui va peut-être donner, parfois, de la puissance au vieil Adam, mais Dieu, absolument pas. Qui n'a pas connu l'échec suite à ses propres efforts, ou si bien intentionnés soient nos propres efforts? Voyez-vous, ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que l'échec lui-même contribue à l'apprentissage et à la poursuite du chemin de Dieu. Car il est dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées, elles ne sont pas vos pensées, et vos voix, elles ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevés au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Notez Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Or, quelle est la voie divine du renoncement au moi? Dieu ne propose qu'un seul chemin, et il n'est praticable que sur la base sur laquelle reposent les autres voies divines. C'est le principe de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. En toute chose, le chemin qu'il a prévu pour nous, c'est celui que le Christ victorieux a déjà parcouru complètement. Et huitièmement, il y a la croix qui est le chemin unique de et pour Dieu. Oui, c'est la croix du calvaire que Dieu en Christ est définitivement venu à bout du moi. À bout du moi, de cette nature qui est à l'origine de tous nos péchés. Nous savons que notre vieux moi a été cloué à la croix avec lui afin que notre corps, qui est l'instrument du péché, puisse être rendu inefficace et inactif pour le mal, afin que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres moyens qui permettent de renoncer au moi? Eh bien, c'est que Dieu ne l'accomplit que par notre identification avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. L'œuvre a été accomplie. C'est à nous de nous en saisir par la foi. Je répète, c'est que Dieu ne s'accomplit que par notre identification avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. L'œuvre a été accomplie, c'est donc à nous de nous en saisir par la foi. La chair ne cédera que à la croix et non aux bonnes résolutions qui ont été prises lors de conférences ou aux efforts du moi de se crucifier nous-mêmes. Non, non, non. La chair doit être crucifiée avec Christ selon Galates chapitre 2 verset 20. Elle ne sera jamais vaincue. Si vous essayez de vous crucifier vous-même, il vous faut, par la foi et par l'abandon de vous-même, vous unir à Jésus-Christ dans sa mort. Et cela sera votre sécurité contre toutes les attraits de la chair, et cela vous rendra capable d'accomplir la volonté de Dieu. Je répète, la chair doit être crucifiée avec Jésus-Christ, selon Galates chapitre 2, verset 20. Elle, la chair, ne sera jamais vaincue si vous essayez de vous crucifier vous-même. Il vous faut, uniquement par la foi et par l'abandon de vous-même, il vous faut vous unir à Christ dans sa mort. Et cela sera votre sécurité contre toutes les attraits de la chair, et cela vous rendra capable d'accomplir ensuite la volonté de Dieu. Alléluia. La croix du calvaire se termine donc par la mort de Jésus, mort à cause du péché des hommes. En mourant au péché, Jésus a quitté la sphère du péché, et par la résurrection, il est entré dans le domaine de la nouveauté de vie, selon Romains chapitre 6, verset 4, le domaine qui est celui de la vie éternelle. Notre identification avec lui au calvaire, elle nous a fait entrer dans la mort et a abouti au tombeau duquel nous sommes ressuscités à la vie nouvelle. Nous avons donc d'abord été baptisés dans sa mort, ensuite nous avons été ensevelis avec lui, et puis nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, c'est écrit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Donc je répète, nous avons d'abord été baptisés dans sa mort, dans la mort de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons été ensevelis avec Christ. Et puis, nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ par la conformité à sa mort, et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. La même vérité est exprimée dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Il est dit, car vous étiez morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. Je répète, considérez-vous comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. Le Seigneur en soit donc loué, car tout cela s'est passé au calvaire. Le prix pour nos péchés a été payé, toutes les mesures ont été prises quant à notre état de péché. Et ces problèmes ont été réglés par la solution finale, c'est-à-dire par la mort. Nous bénéficions donc de l'œuvre de la croix en comptant sur l'efficacité de l'œuvre accomplie à la croix, ou si vous préférez, en y croyant par la foi. D'abord, nous apprenons par la Sainte Parole comment Dieu s'est attaqué à notre problème. Puis, lorsque la Sainte Parole nous a tout à fait convaincus, lorsque nous en avons saisi la portée, nous pouvons être pleinement d'accord. Et c'est ensuite, quand nous y accordons toute notre foi, que nous commençons à en voir les résultats dans la pratique. Donc, ce qui était vrai pour notre justification, cela s'avère vrai également pour notre émancipation de l'esclavage du moi. Le célèbre Andrew Murray, qui a écrit de nombreux commentaires bibliques, Andrew Murray, il écrit « L'effet puissant de la croix auprès de Dieu dans les cieux se manifeste de deux manières inséparables l'une de l'autre. D'une part, nos péchés sont effacés et nous retrouvons l'union avec Dieu. Et d'autre part, la puissance du péché sur nous est abolie par la crucifixion du moi. L'Écriture sainte nous enseigne donc que non seulement la croix nous pousse à faire ce sacrifice du renoncement au moi, mais elle nous donne vraiment la puissance de le faire et ainsi de pouvoir achever son œuvre. Cela ressort avec une grande clarté de l'Épître aux Galates. Dans un des passages, la croix est présentée comme étant la réconciliation en relation avec notre culpabilité. Galates chapitre 3, verset 13. Mais il y a trois autres passages, trois, qui parlent également de la croix comme étant la victoire sur le pouvoir du péché, comme de la puissance qui maintient le moi dans son état de mort et qui rend la chair et le monde sans effet. Notez Galates chapitre 2, verset 20, toujours Galates chapitre 5, verset 24, et encore le chapitre 6, verset 14. Donc, dans ces passages, notre identification avec le Christ crucifié et notre conformité avec lui qui là en découle. Tout cela sont représentés comme étant le résultat de la puissance que la croix exerce en nous et sur nous. Donc au fur et à mesure que nous apprenons à nous baser sur l'œuvre accomplie au calvaire, le Saint-Esprit commencera à l'appliquer fidèlement et efficacement à notre moi, qu'il va neutraliser et qu'il maintiendra dans l'esprit du non pas moi, jamais, mais uniquement Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Deuxièmement, nous avons l'importance de la croix. Chers amis, l'étude de ces vérités est assez ardue, et vous en conviendrez. Bien que la faim et le besoin spirituel soient de prime importance pour recevoir la lumière et la compréhension, le Saint-Esprit ne révèle pas les trésors de la Sainte Parole rapidement ou très facilement. Un abîme appelle un autre abîme, est-il dit dans le psaume 42, verset 8. Alors il nous faut y être préparé, y mettre le temps, y mettre la recherche, la prière, la méditation, une aspiration ardente et pourquoi pas une constante mise en pratique. L'authentique réalité spirituelle n'est accessible que de cette manière-là. Mais louons le Seigneur qu'ainsi elle soit vraiment accessible. Comprendre les faits de la croix et se les approprier, c'est de toute évidence une des phases les plus difficiles et les plus épuisantes de la croissance spirituelle du croyant. Notre Seigneur réserve donc ce qu'il y a de meilleur et de plus vital à ceux qui ont vraiment faim et soif des valeurs les plus riches en Jésus-Christ. Le chrétien qui comprend les deux aspects de la croix tient la clé tant de la croissance spirituelle que du service consacré. En fait, notre Père Céleste nous a formés en vue de cette foi précise et explicite en ce deuxième aspect du calvaire, notre identification individuelle avec le Seigneur Jésus dans sa mort au péché, ainsi que dans sa résurrection à la vie. Cette formation nous a tout d'abord enseigné à savoir par la foi que nous sommes justifiés par l'œuvre d'expiation à la croix. Je répète, cette formation nous a d'abord enseigné à savoir que par la foi, nous sommes justifiés par l'œuvre d'expiation à la croix. Nous nous sommes donc basés sur le fait de sa mort pour nos péchés, ce qui nous a libérés de la condamnation et ce qui nous a apporté la justification. Donc, maintenant que nous sommes considérés ou que nous considérons ce qui en découle, eh bien la Sainte Parole nous invite à saisir par la foi cette vérité libératrice de notre mort en Jésus-Christ au péché, ce qui permet au Saint-Esprit de nous sanctifier en nous libérant totalement de la puissance et de l'esclavage du péché. Bien entendu, quand nous nous trouverons dans la gloire avec Jésus-Christ, nous serons à jamais libérés de la présence du péché, étant alors entièrement sanctifiés et glorifiés. Je répète, quand nous nous trouverons dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ, là nous serons à jamais libérés de la présence du péché, étant alors entièrement sanctifiés et glorifiés. Alléluia. Chers amis, en tant que notre substitut, Jésus est allé à la croix seul, sans nous, pour payer la peine due à notre péché. Donc, en tant que notre représentant, il nous a pris avec lui à la croix, où nous sommes tous morts avec Christ devant Dieu. Dieu, nous avons donc reçu là le pardon, oui, parce qu'il est mort à notre place. Nous pouvons donc avoir la délivrance parce que nous sommes morts avec lui, avec Jésus-Christ. La manière dont Dieu nous délivre, nous qui appartenons à une race incurable, sans espoir de guérison, c'est de nous mettre hors d'état de nuire à la croix de son Fils, afin de nous recréer tout à nouveau en union avec Christ ressuscité et vivant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je répète parce que c'est très important. Donc, en tant que notre substitut, Jésus-Christ est allé à la croix tout seul, sans nous, pour y payer la peine due à notre péché. En tant que notre représentant, il nous a pris avec lui à la croix, où nous sommes tous morts avec Christ devant Dieu. Nous avons reçu le pardon parce qu'il est mort à notre place. Nous pouvons avoir la délivrance parce que nous sommes morts avec lui. La manière dont Dieu nous délivre, nous qui appartenons à une race d'incurables sans espoir de guérison, c'est de nous mettre hors d'état de nuire à la croix de son Fils bien-aimé, afin de nous recréer tout à nouveau et en union avec Jésus-Christ ressuscité et vivant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le Saint-Esprit lui-même rendra donc ces faits étonnants réels et authentiques dans notre expérience. Et ceci, dans la mesure où nous coopérons avec lui, mettons ainsi un terme à notre désarroi intérieur pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc qu'il considère ce fait comme étant vrai, le Saint-Esprit en fait une réalité. S'il persévère dans cette réalité-là, eh bien le Saint-Esprit continuera à la mettre en œuvre. La réforme avait, une fois de plus, attiré l'attention sur l'importance de la naissance spirituelle sans laquelle il n'y a même pas de commencement de vie chrétienne. Ce qui manque parmi les croyants à ce jour, c'est l'accent qui est mis sur la croissance au lieu de se contenter d'être sauvé avec la perspective du ciel au bout du chemin. Que dire d'un salut où notre Père Céleste nous sauverait simplement du châtiment dû à nos péchés, pour nous laisser ensuite seuls à combattre la puissance du péché dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Pourtant, la plupart des croyants ont l'impression que c'est tout ce que Dieu a fait, et ils font de leur mieux pour combattre le péché avec l'aide de Dieu. En fait, c'était là l'erreur des Galates. Oui, erreur si largement répandue aujourd'hui, même dans les rangs des chrétiens qui sont nés de nouveau. Il faut que nous soyons ramenés à deux faits de base. Le premier, c'est que nous sommes libérés du châtiment dû au péché par l'œuvre accomplie de Christ. Le second, c'est que nous sommes libérés de la puissance du péché par cette même œuvre accomplie par le Christ. Donc, justifiés par la foi, nous marchons par la foi. Galates chapitre 3, verset 24 et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, eh bien le Seigneur marchez donc en lui et avec lui. Colossiens chapitre 2, verset 6, je répète. Le premier, c'est que nous sommes donc libérés du châtiment dû au péché, ceci par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Le second, c'est que nous sommes libérés de la puissance du péché par cette même œuvre qui a été accomplie par le Christ. Nous sommes donc justifiés par la foi et nous marchons par la foi. Galates chapitre 3, verset 24 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, vous avez reçu Jésus-Christ, alors marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Chers amis, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans ce combat contre notre vieille nature. Non, non, non. Dieu a pris toutes les mesures nécessaires par Jésus-Christ à la croix. Il est donc capital que nous soyons conscients de ce fait-là, vu qu'il est le fondement du Nouveau Testament en ce qui concerne le principe de la doctrine de la sainteté. En d'autres termes, le calvaire est le fondement aussi bien de la sanctification que de la justification. Les deux nous sont donc donnés à partir de la même œuvre et sont deux aspects du même salut. La mort à nous-mêmes, c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Au début, quand la lumière de Dieu éclate notre cœur, nous ne désirons que le pardon. Je veux dire, j'ai dit un mot que j'ai raté par la pression un peu ou la fatigue. Alors je répète. Tout au début, quand la lumière de Dieu notre Père, quand elle éclaire carrément notre cœur, alors nous ne désirons que le pardon. Tellement nous sommes conscients d'avoir vraiment péché contre Dieu le Père. Cependant, une fois que nous avons reçu le pardon de nos péchés, alors nous découvrons que notre nature même est vraiment pécheresse. Il y a donc en nous, on peut dire, il y a un penchant carrément au péché en nous. Il y a en nous une puissance qui nous pousse parfois à commettre des péchés. Et quand cela se manifeste, nous commettons les péchés. Nous avons beau rechercher et recevoir le pardon, eh bien nous retombons souvent à nouveau dans le péché, malheureusement, de sorte que la vie devient un cercle vicieux où nous péchons, où nous sommes pardonnés et péchons de nouveau. S'il est vrai que nous apprécions le pardon de Dieu, eh bien nous désirons quelque chose de plus que cela. Nous désirons, chers amis, la délivrance de la puissance du péché, carrément. Donc, nous avons besoin du pardon pour ce que nous avons fait, d'accord ? Mais nous avons aussi besoin d'être délivrés de ce que nous sommes. C'est là le problème. Alors, je répète, nous désirons quelque chose de plus. Nous désirons la délivrance de la puissance du péché, carrément. Nous avons besoin du pardon pour ce que nous avons fait, d'accord. Mais nous avons aussi besoin d'être délivrés de ce que nous sommes en réalité. Nous savoir mort au péché, en comptant sur l'œuvre qui a été accomplie par Christ au calvaire, c'est le seul chemin par lequel Dieu nous donne la délivrance. Il n'y a donc pas d'autre chemin, parce que c'est ainsi que Dieu s'y est pris. Nous avons donc appris à ne rien ajouter à l'œuvre accomplie pour notre justification. Il nous faut maintenant, chers amis, apprendre à ne rien ajouter à l'œuvre accomplie en vue de notre émancipation de la puissance du péché. Nous ne serons libérés que en prenant possession de la liberté qui a été offerte en Jésus-Christ, et il n'y en a point d'autre. L'ennemi, Adam, ou si vous voulez l'ennemi, à savoir notre chair, qui représente la vieille nature, qui représente le moi, qui représente le vieil Adam, eh bien cet ennemi est un usurpateur. Et c'est uniquement par la foi que je dois le considérer là où Dieu l'a mis, c'est-à-dire, vous avez compris, crucifié avec Christ. Je dois donc prendre conscience que maintenant, ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu, et que, en fait, Christ est vraiment ma vie. Je répète, l'ennemi, à savoir notre chair, à savoir la vieille nature, le moi, le vieil Adam, eh bien cet ennemi-là est un usurpateur. C'est uniquement par la foi que je dois le considérer là où Dieu l'a vraiment mis, c'est-à-dire je dois le considérer crucifié avec Jésus-Christ. Je dois donc prendre conscience que maintenant ma vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu le Père, et que en fait, Jésus-Christ est devenu ma vie. Je ne suis nullement obligé d'obéir à Satan dans l'avenir. Voyez-vous, chers amis, je voudrais terminer simplement par quelques exemples tout simples. Par exemple, j'aimerais allumer une cigarette, mais je ne suis pas obligé de le faire. J'ai envie, vraiment, en véritable allemand, de boire mes 6 bouteilles de bière, mais je ne suis pas obligé de les boire. Ma secrétaire, qui est beaucoup plus jeune et très jolie, ma femme est devenue vieille, mais suis-je obligé de harceler ma secrétaire? Mais pas du tout. Donc, chers amis, nous avons tous le libre choix. Amen. Et chers amis, maintenant, prions ensemble, s'il vous plaît. Viens, Esprit, notre Créateur, viens visiter les esprits des tiens. Remplis ces cœurs que tu as faits d'une grâce surnaturelle. Toi qu'on nomme consolateur, qui en est un don du Dieu très haut, qui est la source vive, la lumière éternelle, la charité et l'onction spirituelle. Ô toi, le don cette fois parfait, la main droite du Père, qui promit solennellement, mets la parole sur nos lèvres, oui, mets-la sur nos lèvres, et allume ta lumière en nous. Ô, verse ton amour en nos cœurs, rends fort notre infirmité par ta puissance perpétuelle. Repousse bien loin l'ennemi. Donne la paix continuelle. Ô guide divin qui marche devant, fais-nous éviter ce qui nous nuit. Que en toi, Esprit Saint, nous connaissions le Père, que en toi nous connaissions le Fils, toi, Esprit du Père et du Fils, que ta lumière divine illumine notre vie jusqu'à la fin. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, entre 1954 et 1956. Évidemment, vous comprendrez que on n'avait pas les mêmes appareils et la qualité, elle a beaucoup perdu de sa netteté. Mais je voudrais encore vous rappeler à tous, n'oubliez jamais que Dieu, votre Père céleste, ainsi que Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur, vous aime de tout son cœur. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous dis sincèrement, en vous embrassant tous, je vous aime, oui, je vous aime intensément de tout mon cœur, et soyez bénis. Et maintenant, essayons, si ces chants d'un très lointain passé et peuvent encore être entendus.
Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Thank you.